VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin, Gabi, Dorsil, bienvenue dans la deuxième édition du 24 janvier 2017. Au sommaire ce soir, Yahya Jammeh pourra garder ses 13 voitures de luxe qui seront transportées en Guinée équatoriale. L'opposant congolais Étienne Tshisekedi a quitté Kinshasa pour Bruxelles pour raison médicale, un départ qui pourrait compliquer les négociations. Au Mali, un casque bleu a été tué lundi dans une attaque au mortier contre un camp à Aguelhok. Ouverture d'une enquête sur le bombardement accidentel de la semaine dernière au Nigeria. MSF appelle à plus d'indépendance. Et bien sûr, on parlera de la CAN 2017, la Coupe d'Afrique des Nations avec Nicolas Pineau. Mais tout d'abord, le journal. Exil doré de Yahya Jammeh en Guinée équatoriale, l'ex-président gambien garde sa collection de 13 voitures de luxe. Elles seront transportées par avion cargo, Eric Manirakiza.
Yahya Jammeh est autorisé à prendre tous ses biens sans crainte d'aucune vérification sur le détail de ses possessions. Un porte-parole du nouveau président Adama Barrow parle d'un accord passé entre les deux parties. Alifa Salah précise que la décision vise aussi à réduire la possibilité d'éventuelles visites de M. Jammeh en Gambie. Samedi soir, deux Rolls-Royce et une Mercedes-Benz ont été chargés sur un avion cargo tchadien. D'autres véhicules sont en attente de chargement. Un communiqué conjoint de la CDAO, de l'Union africaine et de l'ONU exhorte le nouveau gouvernement de Banjul à s'abstenir de toute représailles contre les proches ou les loyalistes du président déchu. Adama Barrow, qui doit prendre les rênes du pouvoir, séjourne toujours au Sénégal où il a prêté serment. Son retour en Gambie n'est pas encore annoncé.
Au moins 8000 personnes qui avaient fui la Gambie par crainte de troubles liés à la crise politique y sont retournées depuis le départ en exil de l'ex-président Yahya Jammeh. C'est ce qu'a affirmé ce mardi le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Les pays membres de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont décidé de créer une force commune de sécurisation de leurs espaces menacés, entre autres par le terrorisme. C'est la principale décision issue de la conférence extraordinaire de cette institution aujourd'hui à Niamey. Kané Aïchatou Boulama, ministre du plan de la République du Niger.
La deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État instruit le Conseil des ministres de veiller à ce que les actions de l'ALG s'inscrivent désormais dans le continuum sécurité et développement. Convient de développer une stratégie commune dans le cadre de l'ALG pour faire face aux défis sécuritaires. Décide de mutualiser les moyens d'intervention des États membres en créant une force multinationale de sécurisation FMS-LG pour assurer un contrôle effectif de leur espace commun. Réaffirme leur engagement à soutenir le rôle actif du G5 Sahel dans la sécurisation et précise que la force multinationale de sécurisation du Liptako-Gourma, FMS-LG, est une composante de la force conjointe du G5 Sahel.
Kané Aïchatou Boulama, ministre du plan du Niger. La justice congolaise a requis 5 ans de prison ce mardi à Kinshasa contre un opposant accusé de vente illégale d'immeubles en République démocratique du Congo. Dans un réquisitoire prononcé en l'absence de l'accusé et de ses avocats, le ministère public a demandé au tribunal de paix de Kinshasa de condamner Jean-Claude Muyombo à 60 mois de servitude pénale principale. Et l'opposant congolais Étienne Tshisekedi a quitté Kinshasa pour Bruxelles pour raison médicale alors que son parti négocie avec la majorité soutenant Joseph Kabila. Jacques Aristide.
Un proche de la famille Tshisekedi affirme que l'opposant de 84 ans n'est pas mourant, mais qu'il devait partir pour un contrôle médical à Bruxelles. Cependant, pour un haut cadre de l'UDPS, parti d'Étienne Tshisekedi, la santé du vieux, comme le surnomme affectueusement ses partisans, s'est brusquement dégradée. Son départ pourrait compliquer les pourparlers pour une sortie pacifique de la crise politique provoquée par le maintien au pouvoir de Joseph Kabila au-delà du terme de son mandat qui a officiellement expiré le 20 décembre dernier. Selon des informations de VOA Afrique, les partis viennent de convenir sur le comité national de suivi de la transition que Tshisekedi doit diriger. Les évêques catholiques ont même mis un bureau à sa disposition. Il sera secondé par 3 vice-présidents et le comité sera constitué de 23 membres, dont 9 de la majorité présidentielle, 6 du Rassemblement et 4 du Front pour le respect de la transition. Voulant couper court à des rumeurs sans préciser les motifs du voyage, l'UDPS avait publié dans la nuit un communiqué affirmant que son chef partirait pour Bruxelles pour un séjour prévu de longue date qui, selon le parti, a été plusieurs fois reporté compte tenu de la situation politique au pays et des enjeux de l'heure, et d'affirmer que le chef du parti ne tardera pas à revenir pour assumer ses responsabilités historiques.
Au Mali, un casque bleu a été tué et deux autres grièvement blessés lundi dans une attaque au mortier contre leur camp d'Aguelhok, a annoncé aujourd'hui la MINUSMA. Le texte ne mentionne pas leur nationalité, mais la majorité des troupes à Aguelhok appartiennent au contingent tchadien. Déployée en 2013, cette mission est la plus coûteuse en vies humaines de ces 20 dernières années, avec plus de 70 casques bleus tués. Une femme kamikaze portait un bébé sur son dos lors d'un attentat suicide le 13 janvier dans le nord-est du Nigeria, a annoncé aujourd'hui l'Agence nationale de gestion des urgences. Des femmes et des jeunes filles sont régulièrement utilisées par Boko Haram pour perpétrer des attentats. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a commencé à Bangui une tournée africaine qui l'amènera également en Ouganda, après avoir évoqué en Centrafrique les fragilités de la sous-région. Et Mme Lagarde devait s'exprimer devant la presse avec le président Touadéra.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la Russie, la Turquie et l'Iran ont trouvé un accord aujourd'hui pour consolider le cessez-le-feu en Syrie, mais peu de progrès ont été réalisés en vue d'avancer vers un règlement du conflit au terme des négociations d'Astana entre rebelles et émissaires du régime. Selon l'AFP, les trois pays parrains des pourparlers de paix vont créer un mécanisme pour surveiller et s'assurer de la complète mise en œuvre du cessez-le-feu et éviter toute provocation en Syrie. Déclaration finale adoptée après deux jours de discussion dans la capitale du Kazakhstan. Le Sénat américain confirme les membres de l'administration Trump. Mike Pompeo prend officiellement la tête de la CIA et Rex Tillerson est le nouvel homme fort de la diplomatie américaine. Salwa Jafari.
Dominé par les Républicains, le Congrès a notamment validé cette nuit la nomination de Mike Pompeo comme nouveau directeur de la CIA par 66 voix contre 32. Mike Pence a présidé la cérémonie de sa prise de fonction.
It's my great privilege to welcome Mike Pompeo as the new director of the Central Intelligence Agency.
Une large portion de l'opposition démocrate lui concède sa connaissance des questions de renseignement, notamment la cybersécurité. Le républicain est connu pour ses critiques virulentes de l'administration Obama. Dans la foulée, la Commission des affaires étrangères du Sénat américain a approuvé hier la nomination de Rex Tillerson à la tête du département d'État. Tous les républicains ont voté oui et tous les démocrates non. C'est désormais à l'ensemble des sénateurs de voter pour finaliser cette nomination à une date qui n'a pas encore été programmée.
On connaîtra bientôt le choix de Donald Trump pour occuper le poste vacant à la Cour suprême. Le président des États-Unis a promis de publier ce nom la semaine prochaine. La plus haute instance judiciaire américaine est menacée de blocage depuis le décès en février 2016 du juge conservateur Antonin Scalia, car elle ne fonctionne qu'avec 8 magistrats au lieu de 9, 4 juges conservateurs et 4 progressistes. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a approuvé la construction de 2500 nouveaux logements en Cisjordanie occupée. La plupart de ces maisons seront construites dans des localités déjà colonisées. « Nous construisons et nous allons continuer à construire », a déclaré M. Netanyahou sur son compte Twitter. En réaction, les Palestiniens ont accusé Israël de vouloir détruire les accords de paix existants et de défier l'opinion internationale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place au journal de la CAN avec Nicolas Pinault.
Bonsoir à tous. Place au groupe C ce mardi. Aouiem, le champion en titre ivoirien, joue sa qualification face au Maroc. Et les Ivoiriens ont impérativement besoin d'une victoire tout à l'heure. Les deux équipes n'ont pas encore brillé dans cette compétition. Peut-être sur ce dernier match qui débute à 19h temps universel. On retrouve sur place Amine Birouk pour VOA Afrique. Amine, les Lions de l'Atlas ont un léger avantage.
Tout à fait, c'est un match à quête double entre le tenant du titre et le Maroc. La Côte d'Ivoire, qui reste sur deux matchs nuls, a l'obligation de l'emporter face à une sélection marocaine retrouvée, qui n'a, elle, besoin que d'un point. Les deux équipes ont leur destin en main. Côté ivoirien, à l'exception de Lamine Koné, Michel Dussuyer devrait bénéficier de, je dirais, de tout son groupe ou pouvoir compter sur tout son groupe, alors que côté marocain, on ne déplore aucune blessure. Sur le plan mental, les Marocains ont un obstacle à franchir, n'ont jamais réussi à passer le premier tour depuis la CAN 2004, alors que les Ivoiriens ont pour habitude de jouer des premiers rôles dans cette compétition. La Côte d'Ivoire, c'est une génération qui s'est gagnée. Côté marocain, c'est le syndrome de l'échec qu'il va falloir dépasser. Hervé Renard est venu avec cet objectif. Pourra-t-il réussir cette prouesse? Côté ivoirien, est-ce que Michel Dussuyer saura transcender ses troupes? Verdict tout à l'heure à 19h GMT. Depuis Oyem au Gabon, Amine Birouk pour VO Afrique.
Autre affiche de ce groupe, la République démocratique du Congo, leader avec 4 points, affronte le Togo, dernier avec 1 point. Un nul suffit au Léopard pour se qualifier. On retrouve sur place Thierry Kamboundi à Port-Gentil pour Top Congo FM, notre partenaire. Thierry, les Léopards en ballotage favorable sur ce match.
Ah oui, puisqu'il leur suffit d'un nul au minimum ou au mieux d'une victoire pour se qualifier. Les Léopards qui, depuis le début de cette campagne dans le groupe C, chapeaute le groupe, son leader, ils ont 4 points pour l'instant. Mais malgré tout, Flora Ibengue a dit et répété qu'ils doivent absolument chercher à gagner ce match pour éviter tout score piège. Ils doivent chercher à battre cette équipe du Togo pour éviter que derrière, il y ait des complications et des calculs qui pourraient les mettre en ballotage défavorable. On attend voir ce que ça va donner. En tout cas, au moment où je vous parle, je suis au stade de Port-Gentil. Les équipes sont sur place en train d'essayer de travailler, de rendre cette pelouse la plus praticable possible afin que le spectacle n'en souffre pas. On verra bien ce que ça va donner d'ici 19h temps universel. Depuis le stade de Port-Gentil, ici au Gabon, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le verdict a été rendu hier dans le groupe B et il a été sans appel pour les Algériens qui quittent la compétition par la petite porte. Le digne représentant africain au Mondial 2014, armé d'un Mahrez meilleur joueur africain, n'a pas réussi à renverser la vapeur hier à Franceville. Match nul de partout contre le Sénégal déjà qualifié. Amdinsi a suivi le match hier pour VOA Afrique. Voici son compte-rendu.
L'Algérie s'est contentée de match nul face à une équipe du Sénégal bis sur le score de 2-2, alors que la Tunisie s'est imposée devant le Zimbabwe sur le score de 4-2. Pourtant, les Verts ont joué leur chance à fond en ouvrant le score à la 10e minute par l'intermédiaire de Slimani, mais le Sénégal a réussi à remettre les pendules à l'heure à la 44e minute grâce à Papoulou Diop. Les deux équipes vont rejoindre les Verts sur ce score d'égalité. À la reprise, les Fenech vont reprendre l'avantage à la 51e sur un autre but signé Slimani qui a réalisé un doublé. Réponse du berger à la bergère avec Moussa Sow qui égalise 2 minutes plus tard, c'est-à-dire la 53e. Le ballon d'or africain Riyad Mahrez et ses partenaires ont tout fait pour forcer le destin sans succès car le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. Les Algériens qui faisaient partie des favoris sortent ainsi par la petite porte car cette CAN 2017 restera comme un échec pour les Fenech. Amédine Sy, Franceville, VOA Afrique.
Et demain, la grande finale du groupe D, Ghana-Égypte. Les Black Stars, déjà qualifiés, auront fort à faire face aux Pharaons qui ne sont pas assurés de la qualification. Le Mali est en embuscade face à l'Ouganda et devra absolument l'emporter, comme l'explique l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Tonangmaï.
Avec au compteur un point obtenu suite à leur nul contre l'Égypte en première journée, 0-0, les poulains d'Alain Giresse sont dans une position on ne peut plus délicate. Troisième derrière l'Égypte, 4 points, et le Ghana déjà qualifié pour l'écart avec 6 points, les Maliens n'ont pas d'autre choix que de gagner contre les Cranes, les Grises ougandaises. Une telle victoire améliorerait leur chance d'avancer sans la garantir pour autant. Pour ce faire, les aigles maliens devront espérer que les Black Stars du Ghana battent les Pharaons. Un match où les Égyptiens mettront toutes leurs forces dans la bataille. Autre obstacle dans la voie des Maliens, les Grises ougandaises déjà éliminées, mais qui aimeraient rentrer à la maison avec ne fût-ce qu'un point pour sauver l'honneur. Bref, beaucoup de conditions à remplir pour que les aigles du Mali accèdent au quart de finale de cette CAN 2017. Il ne leur reste plus qu'à jouer leur meilleur football et prier pour un miracle. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
C'est la fin de ce journal de la CAN. Nouveau rendez-vous ce soir sur VOA Afrique. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bref coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est tout de suite dans la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
Le marché des couches et lingettes se porte bien. C'est du moins ce que le chiffre d'affaires de 115 millions d'euros du leader algérien Faderco laisse penser. Leader algérien de l'industrie papetière, spécialisé dans le domaine de l'industrie corporelle, la société a été créée en 1986 et s'est spécialisée dans la fabrication des cotons-tiges. La compagnie emploie aujourd'hui plus de 1700 salariés. Le marché domestique de 40 millions de consommateurs est devenu trop étroit pour la société algéroise qui a ouvert en décembre 2015 un deuxième site de transformation à Sétif et s'apprête à en inaugurer un troisième. Pour le directeur général Amor Abès, la croissance actuelle de la société les oblige à chercher des marchés extérieurs. Le groupe exporte d'ores et déjà ses produits finis dans 6 pays d'Afrique, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, le Mali, la Libye et la Côte d'Ivoire. Face à ses grands concurrents chinois, mais surtout turcs, les dirigeants de Faderco jouent la carte de la proximité et ses faibles coûts de production, d'une main-d'œuvre et d'une énergie étant bon marché. Au Maroc, grande déception pour le projet touristique Plan Azur. Sur les 58 500 lits touristiques attendus dans les stations balnéaires de Saïdia, Larache, Mazagan, Mogador, Tagazout et Plage Blanche, seuls 1 570 lits ont été réalisés, soit 2,7% de l'objectif prévu. La SMIT, la société gestionnaire du programme, a dû consentir au total plus de 1,5 milliard de dirhams pour ce plan stratégique, encore à l'état de mirage.
Chérubin Gabi Dorcy dans votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale ce soir, le Nigeria, où une équipe de 6 officiers supérieurs de l'armée de l'air nigériane est arrivée dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, pour commencer l'enquête qui doit permettre de déterminer comment un jet militaire a pu larguer 2 bombes sur un camp abritant des civils déplacés. Ces enquêteurs présenteront leurs conclusions au plus tard le 2 février. On ne sait pas encore si ces résultats seront rendus publics. Certains secteurs ont souhaité que l'enquête soit confiée à une équipe plus large, incluant la société civile. C'est le cas par exemple pour le docteur Thomas Nirlet de Médecins Sans Frontières Suisse. Je l'ai rencontré.
On est arrivé à Rennes le 14 janvier. La première fois que la population, à peu près 15 à 25 000 personnes prises au piège dans le conflit entre l'armée nigérienne et Boko Haram, a été accédée par des acteurs humanitaires. Après 3 jours sur place, où on a fait principalement la vaccination, on a identifié des enfants mal nourris. Le 17 janvier, un avion a bombardé à 2 reprises le camp de déplacés.
C'était l'armée de l'air du Nigeria ?
Oui, clairement. C'est les seuls qui ont la capacité aérienne dans la région. Et en plus, ils ont reconnu quand même très très rapidement après l'incident leurs responsabilités.
Et le bilan, semble-t-il, l'a quadruplé.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de clarté par rapport au nombre réel des victimes. Nous, ce qu'on a, nous avons vu sur place, c'est au moins 90 décédés suite au bombardement. La communauté a rapporté jusqu'à 200. C'est des chiffres que nous, on ne peut pas vérifier. Hein.
Un point sur lequel il faudra faire la lumière, c'est encore l'armée qui a commencé l'enquête ce mardi.
Tout à fait. Hein. C'est difficile de croire que finalement une enquête interne de l'armée va donner toute la lumière à l'histoire. D'autre côté, cette population qui est particulièrement affectée, voire meurtrie par un conflit qui dure depuis très longtemps, ils ont besoin des réponses. Hein. Il faut rendre compte de ce qui s'est passé, surtout parce que cette population, elle s'est réfugiée à Rennes pour finalement fuir le conflit, les violences. Ils se sont sentis en sécurité dans un camp qui était complètement contrôlé par les militaires nigériens.
Comment, selon vous, cette enquête devrait-elle être menée ?
selon nous, il y a clairement un besoin d'une certaine objectivité et de l'indépendance. Et on a quand même l'impression que cette indépendance n'est pas garantie si l'enquête est menée par les forces qui eux-mêmes ont provoqué ce drame atroce.
Docteur Thomas Nierlet de Médecins sans frontières, Suisse. RDC, réaction des organisations de défense des droits humains après la seconde expulsion de la chercheuse principale de Human Rights Watch. Ida Soye n'est pas entrée frauduleusement dans le pays, contrairement à ce que déclare le gouvernement, disent ces organisations, dénonçant le pouvoir de vouloir empêcher aux ONG de faire leur travail. Eddy Isango a joint à Kinshasa le coordonnateur d'une plateforme regroupant une trentaine d'organisations de la société civile, Georges Kapiamba.
Nous avons réagi en condamnant avec fermeté cette deuxième expulsion inacceptable de Mme Ndiba. Elle a payé tous les frais, donc il n'y avait aucune raison qui pouvait justifier l'annulation de son visa si par une raison purement politique et qui viserait à entraver à l'exercice de ses activités de militante des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Donc, nous exigeons des autorités congolaises de revenir et rapporter cette décision pour lui permettre de revenir en RDC et travailler librement.
A-t-elle reçu préalablement un avis du gouvernement pour aller chercher les visas? Un avis pour dire qu'elle était à présent autorisée?
Elle a suivi la procédure ordinaire et légale en la matière. Elle s'est adressée auprès de l'ambassade, la RDC, c'est-à-dire à Bruxelles. Il lui avait demandé toute une batterie de pièces. Il n'y avait pas d'autre chose à faire ou d'autres conditions à remplir en dehors de conditions légales.
Mais le gouvernement dit qu'elle est entrée frauduleusement dans le pays. Les porte-parole du gouvernement, bien sûr.
Non, c'est une fausse déclaration parce que nous avons un autre projet sur tous les documents. Donc, ce qui est fait aujourd'hui par les autorités est inacceptable. Il s'agit tout simplement d'une atteinte portée au droit de Mme Ida et nous exigeons qu'elle soit rétablie dans ce droit.
Est-ce que la décision du gouvernement, au moment où on parle des décrispations, augure de la bonne volonté ou de bonne disposition du pouvoir en place?
Non, pas du tout. Il démontre que le gouvernement entend s'attaquer de manière systématique aux militants des droits de l'homme, aux associations.
On écoutait Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Le président camerounais Paul Biya a signé un décret portant création de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. L'une des missions de cette commission est d'assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l'anglais et du français deux langues officielles d'égale valeur et notamment leur usage dans tous les services publics et les organismes recevant des subventions de l'État. John Lyndon a joint à Yaoundé le docteur Olivier Bilé, président de l'Union pour la fraternité et la prospérité.
La réalité est que la situation qui prévaut au Cameroun est une situation d'impasse critique. C'est-à-dire que le régime est aujourd'hui confronté à une réalité qu'il ne sait plus gérer. Et comme d'habitude, la tradition chez nous ici, c'est de créer des commissions, de créer des comités, etc., lorsqu'on n'a pas de solution politique crédible à une difficulté. La commission créée par décret du président de la République est en réalité une fuite en avant face à une situation qui impose un autre type de solution.
Qu'est-ce qui explique le fait que jusqu'ici, le Cameroun, qui sur le papier est un pays bilingue, n'applique pas ce bilinguisme à tous les niveaux?
Écoutez, le problème qui travaille le pays, si vous voulez, n'est pas tant que ça une question d'application du bilinguisme. C'est vrai que dans certaines instances publiques, dans certaines structures institutionnelles publiques, l'application du bilinguisme n'est pas réalisée telle que le prescrit la Constitution. L'anglais a plutôt jusqu'ici été considéré comme une seconde langue, ce qui est à regretter.
Est-ce que depuis l'annonce de la création de cette commission, la situation s'est calmée dans les deux provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest?
Il n'y a pas beaucoup de chances que la situation se calme. Mais en réalité, le calme viendra que lorsqu'au Cameroun, eh bien, je je l'ai dit dans une tribune, la partie anglophone du pays s'apaisera lorsque, à la faveur de la mise en œuvre de choix politiques qui seront basés sur la restauration de la vérité historique et de la justice, mais aussi à la faveur de choix et d'options politiques qui mettront en avant la quête de la modernité politico-institutionnelle. Ça n'est pas du tout le cas, c'est plutôt une logique d'escalade qui va dans le sens de l'arrestation des leaders syndicaux, dans le sens de l'arrestation même de leaders politiques tels que Paul Aya Abiné. Les principaux interlocuteurs du gouvernement dans cette crise sont aujourd'hui entre les mains du secrétariat d'État à la Défense. Toutes ces personnes anglophones sont détenues de manière tout à fait inacceptable. Je pense qu'il est temps peut-être que des entités extérieures interviennent dans ce conflit qui commence à véritablement nous inquiéter.
Le docteur Olivier Billet est le président de l'Union pour la fraternité et la prospérité au Cameroun.
Dans Washington Forum ce jeudi, Donald Trump, dès son entrée à la Maison Blanche, s'est attaqué à la loi sur l'assurance maladie Obamacare et a retiré les États-Unis du partenariat transpacifique. Depuis, s'en sont suivis plusieurs décrets présidentiels. Un début de mandat marqué aussi par les différentes manifestations anti-Trump massives aux États-Unis et à travers le monde. Alors, jusqu'où ira Donald Trump dans la rupture? Quelles conséquences et quelle est l'influence de ces manifestations? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé une nouvelle tournée africaine par la Tanzanie. Au menu de sa visite, les relations commerciales et les activités du prédicateur Fethullah Gulen, qu'Ankara accuse d'être derrière la tentative de coup d'État de l'an dernier. L'analyste politique malien Madou Diallo a expliqué à Abdourahmane Dia pourquoi l'Afrique intéresse la Turquie.
Depuis 2005, l'année au cours de laquelle le gouvernement turc a décrété 2005 l'année de l'Afrique, on a compris véritablement que la diplomatie turque a mis l'Afrique au centre de ses intérêts. C'est d'abord une diplomatie avant tout économique, parce qu'il s'agit de recherche de nouveaux marchés, il s'agit aussi d'ouvrir de nouvelles liaisons pour Turkish Airlines. Et également, la Turquie a adhéré à des organisations internationales économiques qui s'intéressent à l'Afrique, notamment par exemple à la BAD. Mais également, il s'agit aussi sur le plan culturel, parce que vous savez sans doute que la Turquie incarne aujourd'hui un modèle de laïcité, véritablement qu'il faudrait aussi faire accepter et découvrir au niveau international. Sans oublier aussi le fait que l'objectif, c'est d'endiguer aussi ce qu'on peut appeler le mouvement véritablement Gulen, que le pouvoir turc véritablement veut limiter dans son expansion.
Est-ce que ces pays africains-là ne peuvent pas à la fois entretenir de bons rapports commerciaux avec la Turquie sans forcément céder à cette pression?
Vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui vont chercher à attirer aussi les capitaux turcs, l'expertise de la Turquie. Donc, véritablement, c'est également un jeu qui va s'instaurer à ce niveau. Je pense que ça ne va pas être une pression directe, mais ça va être beaucoup plus, si vous voulez, des encouragements économiques qui vont certainement décider la plupart des États à accepter cette position de la Turquie.
Le président Erdogan entame cette tournée, cette fois-ci en Afrique de l'Est. Pour vous, quelle est la région qui pourrait bénéficier le plus des rapports commerciaux entre la Turquie et l'Afrique?
À mon avis, l'Afrique va beaucoup bénéficier parce qu'il faudrait reconnaître que tout ce qui est produit venant de la Turquie, il y a la qualité, mais aussi véritablement c'est abordable par rapport à finalement ce qui vient des pays occidentaux. C'est aussi gagnant-gagnant parce qu'en réalité, la Turquie aussi a besoin de faire des ouvertures à ses entreprises et aussi à la compagnie aérienne turque, Turkish Airlines.
C'était l'analyste politique malien Madou Diallo au micro d'Abdourahmane Dia. C'est la fin de cette édition. Ainsi va le monde aujourd'hui. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console Wagner Robert, à la présentation Chérubin Gabi Dorcy. On reste en contact sur Facebook pour l'actualité en continu et les toutes dernières sur la CAN 2017. Rendez-vous aussi sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.